1, 2, droit soleil est un balado du Bureau international des droits des enfants qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde.
Bienvenue dans ce nouvel épisode 1, 2, 3 Soleil, un épisode spécial dans lequel nous recevons aujourd'hui deux personnes experts, invitées du Honduras, Vanessa Siliesar, de l'unité de développement intégral des femmes et des familles, et Victor Rios, de la commission interinstitutionnelle contre l'exploitation sexuelle, commerciale et la traite des personnes. Pourquoi Victor et Vanessa sont-ils ici aujourd'hui? Eh bien, dans le cadre d'un processus expérimental, un dialogue s'est engagé entre le Honduras et le Québec, un dialogue entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler très souvent, qui vont donc dialoguer, chercher de nouvelles solutions aux problèmes de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Ce processus qui a débuté à Tegucigalpa en Honduras en 2024 culmine maintenant avec une série d'activités et d'échanges, un atelier collaboratif et quelques espaces de dialogue et de réflexion dans lesquels les experts tenteront de trouver des solutions innovantes et expérimentales pour mettre fin à ce fléau. Je vous remercie infiniment donc de votre présence et sans plus attendre, je vous demande, Victor et Vanessa, de vous présenter et de nous parler un peu plus des structures que vous représentez ainsi que de votre mandat.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vanessa Siliesar. Et j'ai le plaisir de diriger l'unité pour le développement intégral des femmes et de la famille et de coordonner en même temps l'unité de genre de l'Observatoire national de la violence à l'Université nationale autonome du Honduras au campus Atlántida. Donc, d'une certaine manière, je porte deux casquettes puisque je suis à la fois représentante de la société civile et professeure d'université. Dans les deux cas, il s'agit de défendre les droits des filles et des femmes au niveau de la justice, au niveau académique également, mais surtout dans une approche de proximité avec les femmes victimes et survivantes de phénomènes liés à la violence fondée sur le genre dans le littoral atlantique du Honduras, plus précisément à La Ceiba, la ville dont je suis originaire. Et je remercie l'équipe de l'IBCR de nous avoir invités dans cet espace. Pendant deux semaines, nous avons travaillé dans le cadre d'un mandat Nord-Sud qui nous permet de partager nos expériences, de connaître les personnes et les institutions du Québec qui travaillent sur ces questions et d'apprendre beaucoup de toutes ces équipes, de vous tous sur place, dans cette ville spectaculaire qu'est Montréal.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Je m'appelle Victor Rios, je suis psychologue et coordonnateur de l'équipe de réponse immédiate aux victimes de la CISECT, c'est-à-dire la commission interinstitutionnelle contre l'exploitation sexuelle commerciale et la traite de personnes du Honduras. Il s'agit d'une entité gouvernementale décentralisée rattachée au secrétariat aux droits de la personne et elle est composée de plus de 38 institutions gouvernementales et de plus de 15 organisations de la société civile au niveau national. Nous avons un travail qui est assez conséquent car nous couvrons 4 axes principaux. Donc ça touche la prévention, la sensibilisation, et que ce soit par des présentations à des fins de prévention, des ateliers, des formations, des conférences. On a l'axe de la protection ou l'équipe d'intervention immédiate par le biais de différentes unités de soutien psychologique, social, au niveau légal et médical aussi. On offre aussi une assistance et des soins complets aux victimes dès le moment où elles sont secourues et les accompagne dans un processus pour leur permettre d'aller de l'avant. Nous travaillons de cette façon discutant également avec toutes les institutions en fonction de leurs besoins, nous nous arrimons à chacune de ces institutions. Donc, pour ce qui est de l'axe de la poursuite et des sanctions duquel nous occupons directement avec la police nationale et le ministère public, on travaille main dans la main avec tous ensemble et avec les victimes qui sont secourues. Nous sommes avec elles, nous les accompagnons pour qu'elles se sentent entourées, elles se sentent pas seules. Et un autre axe extrêmement important pour nous, c'est le CISECT pour l'Honduras, c'est celui de la coordination et la coopération qui nous aide à bien nous occuper des victimes d'une manière appropriée, ainsi qu'à mettre sur pied de nouveaux projets, de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour lutter contre la traite des personnes. C'est un travail considérable que nous réalisons en collaboration avec la société civile et les institutions gouvernementales. Et c'est un travail difficile, mais il y a du progrès qui est significatif au niveau national. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce que vous faites. C'est bien sûr un travail très important et comme vous l'avez dit, comme vous êtes ici dans le cadre d'un mandat qui implique un dialogue entre le Sud et le Nord, avec des acteurs du Sud et du Nord qui échangent entre eux, justement, nous aimerions profiter de votre expérience ici pour connaître votre point de vue selon le contexte. Et votre expérience, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, tous ces acteurs qui tentent de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le cadre de leur travail?
En tant que défenseur des droits de la personne et en tant que professeur également, je vois trois aspects à cela. En fait, le premier concerne le phénomène de naturalisation de la violence. Nous sommes tellement habitués à un environnement si violent que nous laissons passer la violence. Nous ne la considérons pas comme quelque chose qui ressort, à quoi l'on doit s'attaquer. L'autre aspect, c'est le manque d'éducation, le fait de ne pas nommer le phénomène ou de ne pas savoir qu'il est lié à la traite. Et le dernier, qui est pour moi le plus difficile, c'est, je dirais, l'ignorance inexcusable des fonctionnaires, la négligence lorsqu'il s'agit de s'attaquer à ce problème. Et je voudrais donner des exemples qui me viennent à l'esprit pour chacun de ces aspects, en fait. Pour parler de ma réalité, les Caraïbes honduriennes sont une terre multiculturelle. Le phénomène de la traite y revêt donc différentes modalités. Par exemple, les communautés Garifuna, qui sont des peuples afrodescendants, ne considèrent pas le parrainage ou l'exploitation de mineurs à des fins domestiques comme une forme de traite. Ils confient souvent leurs jeunes enfants à des personnes qui promettent de les faire avancer ou de leur donner une éducation. Et ce qui arrive, c'est que ces jeunes filles finissent par être exploitées dans le milieu domestique, à faire des tâches qu'elles ne devraient pas faire. Et évidemment, elles ne vont pas à l'école. Donc, nous le constatons non seulement chez les peuples afrodescendants et autochtones, mais aussi dans les communautés rurales. Vous comprenez? La méconnaissance de la violence ou le fait de ne pas la nommer tourne autour de cela. C'est lié à l'éducation. Pourquoi? Parce que même nous, qui travaillons avec des réseaux de femmes, lorsque nous avons rencontré l'IBCR, nous avons dit, attendez, c'est de la traite, ça? Et on savait ce qui se passait, mais on l'avait naturalisé, ou il nous manquait un nom pour ça. On n'était pas éduqués, vous voyez? Enfin, si les communautés ne comprennent pas le phénomène et que les fonctionnaires vers qui elles se tournent pour obtenir de l'aide ne sont pas sensibilisés eux-mêmes, elles se heurtent à une grande barrière, à un obstacle qui découle d'un manque d'intérêt, d'une apathie, que je pourrais même associer à une question de racisme. Parce que si une question est vue comme raciale, le fonctionnaire répondra « Non, mais ces gens-là sont comme ça, ça ne changera pas. » Et alors, il ne voudra pas aider. Donc, travailler avec l'IBCR nous a permis d'identifier ces obstacles-là, de les nommer, mais aussi de chercher des solutions et de conclure un partenariat avec l'État. Le CISESC a été essentiel pour nous en tant qu'organisation de la société civile, mais aussi en tant qu'université. Parce qu'ils nous ont prêté une équipe d'enseignants pour animer des ateliers afin que ces fonctionnaires-là n'aient plus l'excuse d'ignorer ce qu'est la traite de personnes, par exemple.
Oui, de notre côté, nous sommes confrontés à de nombreux défis, de nombreuses difficultés. Et quant à l'une des principales, je suis un peu d'accord avec ce que Vanessa mentionne à propos du manque de connaissances. Il y a beaucoup de personnel au sein même du gouvernement qui ne connaît pas ni les CISEC, ni la commission, ou qui ne sait pas qu'ils en font partie, ce qui est déjà un grand défi. Comme le dit Vanessa, nous sommes confrontés à des « vous êtes qui, vous ?» Pourquoi devrions-nous vous soutenir? Pourquoi devrions-nous nous occuper d'une victime? Pourquoi devrions-nous lui accorder un traitement particulier? Il s'agit donc à partir de là de faire savoir à l'institution qu'ils font tous partie du CISEC et d'expliquer l'infraction. L'infraction est assez complexe. C'est pourquoi il est très important de connaître la terminologie à utiliser, les différentes modalités, certaines d'entre elles étant souvent similaires, et là, les gens demandent « qu'est-ce que c'est ?» et ça, c'est quoi ? Il est très important de préciser que l'infraction comporte de multiples modalités. Lorsque vous vous rendez dans les institutions, les communautés, les centres éducatifs, et que vous commencez à expliquer un peu les modalités, les gens commencent à se manifester, à dire « hey !» J'ai été victime de cela. Au fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas les mots pour identifier ça. Cela nous est arrivé avec l'IBCR. Nous suivons une série de formations et en réalisant une procédure opérationnelle standardisée avec la police, nous avons abordé une modalité particulière qui, au Honduras, consiste à utiliser d'autres personnes pour commettre des activités criminelles. Certains des agents venaient et nous disaient « cela n'existe pas ». J'ai tout de suite attrapé un garçon, une fille, et j'ai dit non, attendez, il faut l'écouter, il faut voir ce qui se passe réellement. Au fait, malheureusement, en 2025, grâce aux personnes qui ont été certifiées, nous avons déjà pu identifier plusieurs cas, plusieurs victimes. C'est donc possible de dire « Ah non, elle ne fait pas vraiment cela parce qu'elle voulait, pour satisfaire ses propres besoins. » Il y avait plutôt des gens qui l'obligeaient à le faire. Le manque de connaissances est donc l'un des obstacles, c'est pourquoi nous devons continuer à transmettre le message. Un autre obstacle, c'est l'engagement. Je pense que les fonctionnaires qui viennent nous rencontrer ne sont pas tous très engagés. Nous devons de faire passer le message et leur faire comprendre le rôle important qu'ils jouent. Non seulement dans la lutte contre la criminalité, mais aussi dans l'aide aux victimes. En prenant conscience que tout le monde peut être victime. Bien sûr, certains profils ou certaines personnes sont plus vulnérables, mais tout le monde peut être victime. Ainsi, le défi, c'est qu'ils s'engagent et disent « c'est une victime, nous devons lui donner la priorité ». Nous avons aussi réussi à défendre une cause auprès du ministère du Travail. Le programme de formation nous a beaucoup aidé. C'est précisément ce qui nous a permis de cerner un cas de travail forcé où c'était un restaurant qui exploitait des victimes. En quoi la formation nous a aidé pour tout le processus de questions liées au travail et aux payes qui leur étaient dues. Ou les faits qu'on a emmené les victimes dans une pièce distincte, dans un endroit approprié où elles ont pu être prises en charge. Nous voyons donc l'importance de la connaissance et de l'engagement, car le travail peut être beaucoup plus bénéfique pour le bénéfice des victimes. Dans le spectre des difficultés que vous rencontrez, il y a donc un besoin évident de nommer les choses, de les connaître, que tout le monde connaisse et surtout d'avoir des références et des dénominations communes. Non, nous avons également avec nous aujourd'hui Darejana Satiani qui dirige l'unité justice et droits de l'enfant au Bureau international des droits de l'enfant. Darejan, vous avez participé à un processus de travail international de grande envergure qui visait précisément à répondre à la nécessité d'aborder le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents avec une terminologie commune. Est-ce que vous pouvez vous nous dire sur ce travail?
Oui, bien sûr. En fait, depuis 2015, il existait déjà un guide terminologique pour la protection des enfants et des adolescents contre l'exploitation et les abus sexuels. Il avait été publié initialement en 2006 et il avait été coordonné par le CPAT. Donc, c'est un réseau d'organisations regroupant plusieurs membres qui désirent mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants. Donc, 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2025, ils ont voulu mettre à jour ces orientations-là, ces lignes directrices-là, et en tant que responsable de l'unité justice et droits de l'enfant, j'ai participé à ce groupe de travail interinstitutionnel sur l'exploitation sexuelle. Et donc, nous sommes plusieurs organisations du monde entier et il s'agissait de réfléchir tous ensemble, de se mettre d'accord sur une terminologie ou des définitions qui fassent l'objet d'un consensus au niveau international et sur les termes qui peuvent être utilisés sans nuire aux enfants et sur d'autres termes, d'autres mots qui ne devraient pas être utilisés parce qu'ils peuvent empirer les choses pour les enfants. Et donc, avec cette mise à jour-là, on a, par exemple, modernisé tout ce qui concerne les technologies, les abus en ligne, etc. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec ce document qui vient de sortir, cette nouvelle deuxième édition en anglais, mais qui sera traduite, puisque la première avait été traduite dans plusieurs langues. Donc, c'est une préoccupation que vous avez là-bas, que nous avons ici. Il semble que la terminologie soit une préoccupation partout, en fait. Et nous devons nous mettre d'accord pour utiliser les bons termes pour bien décrire les phénomènes, pour bien décrire les réalités. Donc, voilà.
Oui, gracias, Darijan.
Merci, Darijan. Je vous demande maintenant, qu'en pensez-vous, Victor? En pensant à vos différents contextes, que reste-t-il à faire pour que nous disposions d'une terminologie commune, utile, utilisée, claire? Oui, eh bien, je pense que c'est très important, pour être honnête, parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà une grande ignorance de ce qui existe. Beaucoup de lois, beaucoup de documents, comme je l'ai dit aussi, ont été publiés depuis plusieurs années maintenant. Il y a ces termes, ces lignes directrices, mais tous les gens qui ne connaissent pas et continuent d'utiliser ces termes qui ne sont pas adéquats. L'un d'entre eux, nous le savons, et cela nous arrive lorsqu'une fille qui a du matériel ou du contenu sexuel d'une fille en ligne, que dit-on? Comment on la nomme? Quel est le terme? Ça fait partie de notre leçon. Pornographie infantile, c'est un terme erroné. Nous le mentionnons dans nos formations. C'est quoi la pornographie? Qu'est-ce que ça montre? Les adultes qui créent ce contenu et que la société regarde, consomme, ils gagnent de l'argent. C'est le bon côté, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, ce qui change. Ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Nous devons être clairs à ce sujet. Ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Ils ne comprennent pas. Et nous devons faire savoir aux gens qu'un enfant n'a pas encore la maturité nécessaire pour savoir ce qu'il fait. C'est pour cette raison précise qu'ils deviennent des victimes. Ces trafiquants, ces exploiteurs viennent leur dire « Viens, allez, tu dois faire ceci, tu dois faire cela et cela ». Nous avons des cas comme ça et les autorités ou les personnes qui enquêtent disent « Et pourquoi enquêter là-dessus ? Si elle le fait, c'est parce qu'elle le veut, non ?» Pour commencer à expliquer, quoi de mieux que de disposer de la bonne terminologie afin que chacun sache « Ah non, ça, ce n'est pas correct ». Il y a des gens qui disent « La prostitution n'est pas punissable par la loi, alors on peut le faire ». Ce n'est pas clair qu'il y a exploitation sexuelle. Après, il n'y a personne qui est en train de forcer personne. Donc, on entend l'expression « c'est une prostituée ». Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il faut travailler là-dessus petit à petit. Et quoi de mieux pour expliquer le problème? Je veux dire, il existe un guide terminologique qui nous l'explique. Cela peut donc s'avérer très utile tant pour nous permettre d'assurer la prise en charge des victimes que pour les aspects judiciaire.
Oui, nous avons récemment parlé de cette situation avec Darijan, précisément parce que, en tant que juriste, moi, je le remarque. Chez nous, il y a un dicton qui dit « ce qui n'est pas écrit n'existe pas ». Donc, dans ma réalité, c'est une question très éloignée. Dans les facultés de droit, par exemple, cette terminologie ne s'utilise pas. Et ça signifie que les juges, que les procureurs, que les avocats de la défense continuent à utiliser des termes incorrects. Et bien entendu, les législateurs, à leur tour, ceux qui créent les lois, utilisent aussi ces termes qui, comme nous le disions, rendent invisible, naturalisent la violence. Et dans de nombreux cas, exonèrent même des agresseurs. Et donc, c'est intéressant parce qu'il est extrêmement utile d'utiliser un langage qui met le point sur les « i ». Qui est l'agresseur? Qui sont les victimes à l'origine de ce phénomène? Dans notre réalité, comme Victor l'a déjà souligné, il est étroitement lié au crime organisé. Et le fait de ne pas utiliser correctement les termes peut mener à ce que les coupables soient très rapidement libérés ou qu'ils n'aient même pas en prison. La terminologie n'est pas seulement utile, elle est nécessaire. Je dirais que ce serait extrêmement intéressant, et j'invite l'IBCR à réfléchir à la manière de le faire, en fait, de créer un espace pour partager ces informations, non seulement avec les défenseurs des droits de la personne, mais aussi avec les universités, les écoles de droit, où cette terminologie n'est pas encore utilisée. Et je parle aussi de ma propre réalité, non très loin du centre du pays. Je suis dans les Caraïbes, honduriennes, où il n'y a pas des tonnes de professeurs dans les facultés qui traitent de ces sujets. Mais nous avons obtenu de très bons résultats. Et ce qui me frappe, c'est que ce guide peut être très utile en tant que société civile, en tant que mouvement de femmes, en tant que féministe, pour promouvoir des actions auprès du Congrès, auprès du pouvoir législatif, ce que fait aussi le CICESC, mais pour changer la loi dans le pays et utiliser la bonne terminologie. Mais il me vient aussi à l'esprit que les forces de sécurité, la police, les forces d'enquête devraient connaître et utiliser cette terminologie également. Sinon, comme nous l'avons évoqué avec Darijan, les filles et les femmes, soit celles qui souffrent le plus de ce phénomène en chair propre, sont également revictimisées. Donc, c'est sans oublier les garçons. On constate une forte augmentation du nombre de garçons victimes et survivants de traite de personnes dans le pays. Oui, en fait, ce que dit Vanessa attire mon attention et aussi ce qu'a dit Victor sur le fait que les adolescents sont criminalisés, par exemple, pour des actes qu'ils ont commis. Mais on ne peut pas blâmer un jeune, vous comprenez? Il existe d'ailleurs une différence entre l'abus et l'exploitation. L'exploitation, ça signifie que si un jeune, un enfant se retrouve dans une situation et qu'il le fait consciemment, en fait, même si un enfant est conscient d'une situation sexuelle ou d'un autre type d'exploitation, ça ne signifie pas qu'il l'a voulu ou qu'il est également un criminel. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre le mot juste. Si cet enfant est victime d'exploitation, oui, il a peut-être profité de la situation. Il en a peut-être tiré un avantage, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été exploité. Et surtout, disons les enfants qui sont adolescents. Parfois, à cause de l'exploitation sexuelle, nous pensons vu qu'ils sont plus âgés, qu'ils savent. Donc, s'ils ont accepté de l'argent, ils ont accepté une situation. Mais il y a une relation d'échange. Oui, d'échange. Et le fait que la figure d'autorité, que ce soit un adulte ou un autre jeune, profite de l'enfant. Oui, c'est une position d'avantage, en fait, oui. Et je pense que ça, c'est très important. Et dans notre réalité, ce sont toujours les femmes qui sont blâmées, les enfants. Et on met la responsabilité sur la victime. Mais les mots revictimisent. Et c'est là que le travail du psychologue entre en jeu dans la manière de défaire ça. Mais nous ne devons pas permettre que ça aille aussi loin. Pour commencer, nous ne pouvons pas dire que l'enfant est responsable de cet acte parce qu'il y a une tierce partie qui abuse de sa confiance ou de la relation de pouvoir, de l'inégalité qui existe entre eux.
Un grand merci à nos trois experts d'aujourd'hui, Darejan Asatiani, à Victor Rios et Vanessa Siliesar. Il est très clair après ce dialogue qu'il est très important d'encourager ces espaces d'échange entre le Sud et le Nord, qu'il est très important de réunir des experts comme vous pour parler de ces choses et surtout que les mots sont plus importants qu'ils ne semblent. L'engagement à mettre fin au fléau de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents par des choses très simples comme le choix des termes que l'on utilise. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec votre entourage et parlez-en. Et n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui l'accompagne sur nos réseaux sociaux.